Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Le pasteur n'est pas là. Après une longue période de travail, il s'est accordé quelques jours de vacances. Mais dans la maison du Seigneur, il y a toujours les substituts qui tiennent la maison. Donc aujourd'hui, Eric Palix et moi, nous sommes là pour assurer la continuité pendant que le pasteur n'est pas là. Et c'est un réel plaisir pour moi pour apporter le message. Le message que le Seigneur nous envoie aujourd'hui, nous sortons de l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Il est intitulé « La parabole du fils prodigue ». On pouvait aussi l'intituler « La parabole des deux fils ». Mais il y a déjà une autre parabole qui parle des deux fils. Avant donc de laisser un lecteur ou une lectrice lire, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, ta parole est une lumière, elle nous guide, mais elle est aussi profonde à comprendre. Nous te prions Seigneur de venir maintenant nous apporter la plus grande lumière et la plus grande explication de ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. J'invite donc Lydie. Luc, chapitre 15, versets 11 à 32.
Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim ? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour. » Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. »
Merci. La parabole du fils prodigue est une parabole qu'on a déjà entendue maintes fois, mais qui a aussi plusieurs points de chute. La première chose que je voudrais qu'on remarque ensemble, c'est que dans cette parabole, on nous parle de trois personnages. Le père, le fils prodigue et le frère aîné. Je suis sûr d'une chose, si je vous demande maintenant de choisir un de ces personnages, on pourra passer mille et une nuits ici, parce qu'il ne faut pas faire un choix sans le justifier. Si quelqu'un dit « je suis le père, je veux être le père », je peux lui demander pourquoi. Quelqu'un d'autre peut dire « je veux être le fils prodigue ». Pourquoi ? Et chacun donnera sa réponse, qu'elle soit juste ou pas juste. L'autre peut dire, je veux être le frère aîné. Il faudra aussi dire pourquoi. Donc, je peux dire qu'on est donc devant une parabole qui nous donne l'embarras du choix si on ne rentre pas dans l'explication profonde. Alors, on peut aussi se demander, Jésus s'adresse à qui quand il raconte cette parabole? Devant une foule, mais composée de qui? Il y a les Juifs, bien sûr. Il y a des gens qui colonisaient Jérusalem à l'époque, mais qui aimaient écouter cet homme. Parce qu'il avait l'habitude de monter sur la montagne et parler. Donc ça veut dire qu'il avait une voix qui porte. Il n'avait pas besoin de micro comme nous aujourd'hui. Et là, dans cette foule, il y a aussi les païens. Il y a aussi, comme aujourd'hui on peut dire, les chrétiens, ceux qui suivent Christ, qui peuvent dire, ah ben je ne suis pas concerné parce que moi je suis déjà dans le christianisme. Mais ne vous trompez pas, Jésus s'adresse à tout le monde, païens, juifs, étrangers, la parabole nous concerne tous. Et pour mieux comprendre dans le sens de la parabole, on doit d'abord comprendre qui est ce Père. Le Père ici nous montre des qualités. C'est un Père très compatissant, un Père respectueux des libertés, un Père équitable. Pourquoi équitable? Il partage ses biens entre ses enfants, sans distinction que l'autre prend plus ou moins parce qu'il est grand ou petit. Et on sait souvent que la dispute des biens commence quand le père meurt. Mais là, le père n'est même pas encore mort. Le fils cadet demande sa part de bien. Et ce père si aimant lui donne. Parce qu'il ne veut pas vexer son fils. Mais il lui donne. Il ne lui dit pas, mais attends quand même ma mort. Il ne lui dit pas, j'aime pas écrire le testament. Il lui donne sa part et il s'en va. Et pendant qu'il a donné sa part, on remarque que le fils aîné n'a pas contesté. Pourquoi il n'a pas contesté? La contestation du fils aîné commence le jour où le frère cadet qui a dilapidé le bien est revenu. Mais pourquoi dès le départ il n'a pas contesté? Donc je pense que ce père, c'est Dieu lui-même. Quand on cherche à comprendre qui est donc ce fils prodigue peut être nous. Parce qu'on a pris la part de bien, aller dans un pays lointain, le dilapider. Et c'est quoi même ce bien? On ne nous parle pas ici des hectares de terrain ou de l'argent à la banque. On nous parle tout simplement du bien. Parce que la vie que Dieu nous donne est un bien inestimable, très précieux, que nous allons souvent dilapider dans la débauche. Et quand on se trouve dépourvu de beaucoup de choses, à ce moment-là, on reconnaît que Dieu est Dieu. On cherche à revenir. Mais ce fils prodigue ne revient pas comme ça, là. Il mijote d'abord en lui-même ce qu'il dira à son père. J'irai chez mon père, je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un employé. Et on remarque, nous avons tous l'habitude de regarder les films policiers ou même parfois les présumés devant le tribunal. Quand tu changes ta version, ta sincérité est mise en cause. C'est pour ça que pendant l'arrestation, on demande toujours au présumé, garde le silence jusqu'à l'arrivée de ton avocat parce que tout ce que tu peux dire pourra être utilisé contre toi. Parce que la sincérité, ce n'est pas de donner plusieurs versions, c'est garder une seule version. Là, on sait que tu es dans la vérité. Et c'est ce que l'enfant prodigue fait ici. Arrivé chez son père, il n'a pas ajouté un mot, il n'a pas retiré un mot. Peut-être qu'il pouvait dire mieux, mais il maintient sa version. J'irai chez mon père, je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite même plus d'être appelé ton fils. Mais on remarque en même temps que ce père si aimant, c'est un homme qui ne perd pas l'espoir. Donc Dieu tient toujours à ses promesses. Aussi loin que le fils était encore, Le père l'a vu, il est allé vers son fils, il l'a embrassé et il a fait des gestes. Non seulement on va tuer le veau gras pour fêter son retour, on va lui mettre les souliers aux pieds et on va lui mettre un anneau sur le doigt, signe d'appartenance, qu'il appartient à nouveau à son père. Et rentrons maintenant à comprendre qui est le fils aîné, qui ne conteste pas au départ le partage de biens, mais qui conteste le retour de son frère jusqu'à manifester une colère, jusqu'à refuser d'entrer dans la fête. Ce fils aîné, c'est toujours nous, les chrétiens. Et là, dans la parabole, c'est Israël. Jésus s'adresse maintenant particulièrement au peuple d'Israël, qui conteste qu'on annonce la bonne nouvelle du salut aux autres peuples. Mais Jésus rentre dans cette parabole pour leur dire que si vous êtes le fils aîné, le peuple choisi, cela n'exclut pas que les autres aussi sont les enfants de Dieu. Ils doivent aussi avoir cette bonne nouvelle du salut. Et ce fils aîné qui croit être le bon tombe dans le piège de la calomnie. Il n'était pas avec son frère quand il est parti. Mais il commence à l'accuser, il a dilapidé l'argent avec les prostituées. Comment tu le sais? Tu n'étais pas là-bas. Et c'est ce que nous savons, nous faisons souvent, accuser l'autre pour avoir raison. Mais quand on rentre dans la vie même de ce fils aîné, il est même plus mauvais que son frère cadet. Commençons par Exode jusqu'à Deutéronome. Nous allons remarquer que Israël, qui est le fils aîné, a dilapidé plus de biens que le fils cadet. Après la sortie de l'Égypte, qui a célébré le veau d'or dans le désert? C'est lui. Il s'est défait de son Dieu, il a tourné le dos à son Dieu pour célébrer les statues égyptiennes, le veau d'or. Les champions de la fornication dans le désert, c'était Israël. Arrivé même à la terre promise, c'est toujours Israël qui a rendu un culte au Dieu de Baal. Si nous voulons compter les fautes d'Israël, nous allons remarquer qu'ils ont dilapidé plus de biens que le fils cadet, que le peuple, le reste du monde peut être représenté dans cette parabole du fils prodigue. Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Puisque personne ne peut incarner le Père qui est Dieu, quel fils voulez-vous être aujourd'hui? Quel personnage voulez-vous incarner? Moi, je préfère incarner le fils prodigue. Parce que dans la Bible, je remarque que la position défavorisée nous appelle toujours à une chose, la repentance. Surtout quand on prend conscience. Parce que ce fils cadet, il a compris que sa richesse, c'est quand il est avec son père. Et quand il a décidé de son retour, lui qui était déjà exposé à quelque chose d'impur devant le peuple d'Israël, garder les porcs. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, même comme l'élevage a changé, les Arabes pratiquants et les Israéliens ne mangent pas le porc. Parce que cet animal est toujours considéré comme un animal très impur. Quand on va même dans le livre de sagesse de Salomon, il compare un homme insensé à un porc. Il dit, quand vous sortez le porc dans sa boue, vous le lavez, vous le parfumez, vous lui mettez un anneau d'or sur le groin. Dès que vous le lâchez, il rentre dans sa boue parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce que vous avez fait. Et nous avons toujours tendance à faire ça. Quand on va dans le prophète Ésaïe, Dieu, il dit Dieu est fidèle, mais c'est nous qui sommes infidèles. Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, c'est nous qui abandonnons toujours le Seigneur. Mais sa main n'est jamais très courte pour nous sauver. Alors, le fils prodigue ici nous donne une leçon que même quand on est dans le péché, même quand on tombe plus bas que terre, il faut éviter de se souiller. Et c'est la souillure que nous portons aujourd'hui comme marque. Mais malheureusement encore pour nous, on a du mal à faire ce retour dans la sincérité, comme l'a fait le fils prodigue. Et c'est pour moi une grande leçon, et je souhaite que ça soit une leçon pour nous tous, qu'on peut toujours renaître, qu'on peut tout recommencer. Quand on est sincère, on peut demander pardon à son voisin, à son mari, à sa femme, à son fils, et reprendre des relations à nouveau, mais dans la sincérité. J'insiste sur le mot sincérité parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens, il fait semblant de revenir pour t'achever. Il n'est pas sincère. Donc la sincérité est un élément primordial pour chaque chrétien qui veut se repentir. Ce fils prodigue nous donne une leçon de repentance. Son retour ici, c'est cette repentance que Jésus nous chante durant tout son ministère, qu'on peut se repentir, demander pardon à Dieu et tout recommencer avec lui. C'est ça notre fils prodigue. Mais le frère cadet aussi, le frère aîné aussi va emboîter le pas. Il va aussi nous donner une petite leçon d'obéissance, parce que quand son père lui dit « Tout ce que j'ai est à toi », peut-être qu'avec ces mots-là, le père a pu apaiser sa colère. Tout ce que j'ai est à toi parce que tu es avec moi tous les jours. C'est-à-dire, celui qui est avec le Seigneur tous les jours a une plus grande richesse. Je laisse à chacun de nous rentrer dans sa propre expérience de vie avec le Seigneur et voir s'il n'a pas cette richesse-là. Parce que le mot « richesse » aujourd'hui nous rend un peu perplexe. On croit qu'avoir une grande maison, c'est une richesse. Oui, on veut bien vivre. Avoir une voiture, c'est une richesse. Oui, pour moi, c'est un moyen de locomotion. Mais la vraie richesse, c'est d'être sûr qu'on a le pardon du Seigneur et qu'on peut être sauvé. Parce que Dieu est fidèle. S'il n'était pas fidèle, il n'aurait pas envoyé son Fils unique mourir pour nous sauver. C'est ça la fidélité de Dieu. Et c'est ça la grande richesse, parce que le corps charnel pourra mourir, mais spirituellement, on vivra toujours. Pour conclure, ce message est pour nous un message de repentance. Et que Dieu nous aide à être ceux qui se repentent. Que Dieu nous aide à être les bons frères et les bons sœurs aînés qui ne refusent pas le retour des autres et qui rentrent sans contestation dans la fête pour fêter le retour de ceux qui étaient morts, qui reviennent à la vie. Parce que quand on est loin de Dieu, on est mort. Et quand on est plus près de Dieu, on revient à la vie. J'ai étudié un cantique et le personnage qui a écrit ce cantique, Amazing Grace, la grâce infinie. Je ne parle pas trop anglais, je demande souvent à ma fille, mais quand on voit l'interprétation en français, on a une leçon de vie. J'étais mort, je reviens à la vie. J'étais perdu, je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ce frère aîné était aveuglé par certaines choses, mais quand il est rentré dans la fête avec son frère, il a retrouvé la vue. Ce frère cadet était mort, il est revenu à la vie. Soyons en même temps le fils cadet repentant, et soyons aussi les bons frères aînés qui ne contestent pas le retour. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son assemblée. Amen.